Chapitre 3. Père. Si un capitaine marchand bénéficie de contacts assez bien établis à Jamaïlia, il peut parfaitement y remplir ses cales de produits précieux venus de nombreux ports étrangers et lointains. Il aura l'avantage de pouvoir vendre ses marchandises exotiques sans avoir été obligé d'affronter les périls qu'un voyage en haute mer présente toujours pour l'équipage et le navire. Naturellement, il paiera en espèces les angoisses qu'il se sera épargné, mais c'est le marché que tout négociant avisé doit accepter. Jamaïlia est non seulement le port le plus septentrional dans lequel les marchands de l'île aux épices font relâche, c'est également le seul de nos côtes où mouille la flotte de la Grand Voile. Toujours en groupe, les vaisseaux de cette flotte relâchent à Jamaïlia, qu'en bon barbare, leur équipage nomme « port de l'Ouest », une fois tous les 3 ans seulement. Les dangers de la traversée qu'ils effectuent s'imaginent aisément si l'on observe la toile déchirée de leur gréement et la mine exténuée de leurs marins. Les articles qu'ils proposent sont tout à la fois exotiques et onéreux. C'est seulement auprès de ces navires qu'on peut se procurer la rouge épice et la gomme de cède. Or, comme le palais du gouverneur en achète toujours les cargaisons entières et n'en remet que d'infimes quantités sur le marché, on peut considérer ces deux produits comme inaccessibles au commun des marchands. Toutefois, d'autres biens que ces navires apportent peuvent se révéler à la portée du négociant avisé qui, jouant à la fois de chance et de flair, passera à Jamaïlia au moment où la flotte de la Grand Voile y jettera l'ancre. Conseil au marin marchand du capitaine Banrop. Une poignée de jours s'écoulèrent encore. Sire Doré émergea de sa chambre, plus distingué et raffiné que jamais, pour annoncer à tous qu'il avait recouvré une santé parfaite. Son maquillage jamaïlien, qu'il s'appliquait soigneusement chaque matin, était devenu encore plus extravagant. Parfois, il arborait ses écailles en plein jour, et je me demandais s'il ne cherchait pas ainsi à détourner l'attention de l'assombrissement de son teint. Si tel était le cas, il atteignait son but, car nul n'en faisait mention. La cour salua son rétablissement avec enthousiasme. Il n'avait rien perdu de sa popularité. Je retrouvais mes obligations de serviteur. De temps en temps, Sire Doré donnait de petites réceptions dans ses appartements, l'après-midi, où il organisait des jeux de hasard, où invitait des ménestrels, et les jeunes gens de la noblesse, tous sexes confondus, se disputaient l'honneur d'y participer. Ces jours-là, je demeurais dans ma modeste chambre, prêt à répondre à ses ordres, ou bien il me congédiait. Je l'escortais lors de ses promenades à cheval en compagnie de membres de l'aristocratie, et je restais debout derrière sa chaise durant les dîners mondains. Toutefois, ces occasions revenaient moins fréquemment qu'auparavant. Avec le départ des Outriliens et des marchands de Terrilleville, la population du château de Castelcerf s'était réduite, la vie reprenant un cours plus normal, tandis que la noblesse des six duchés regagnait ses terres. Séances de jeu, spectacles de marionnettes et autres divertissements se firent plus rares, les soirées plus longues et plus calmes. Lorsque j'obtenais une heure de liberté en fin de journée, je la passais souvent dans la grande salle. Les enfants du château y avaient repris leurs leçons près des vastes cheminées, aux côtés des artisans occupés à tisser la laine ou à fabriquer des flèches. Commérages et anecdotes se déroulaient au rythme du fil sur les quenouilles, les angles de la salle se drapaient d'ombre et, avec un petit effort, je pouvais me croire revenu au Castelcerf de mon enfance. Mais je ne voyais plus le fou. Aucun mot, aucun signe de Sire Doré n'indiquait que notre relation fût différente de ce que constataient les habitants du château, celle d'un maître à son serviteur. Jamais il ne m'adressait une parole qui détonnât avec son personnage d'aristocrate jamaïlien, et si je me permettais quelques boutades qui sortit des limites de nos rôles respectifs, il feignait de ne rien entendre. L'abîme que cet ostracisme ouvrait dans mon âme me surprenait, et il était chaque jour un peu plus béant. Un matin où je revenais de ma séance d'entraînement avec Wim, je trouvai un petit paquet sur mon lit. Je tirai de la bourse en tissu un mirliton rouge attaché à un fil vert. « Pour lourd », disait le billet rédigé de la main du fou. J'espérais qu'il s'agissait d'une sorte d'offre de paix, mais quand j'eus le front de remercier Sire Doré, il leva les yeux de l'herbier qu'il examinait et m'adressa un regard à la fois absent et agacé. « J'ignore de quoi vous parlez, blaireau. Je n'ai pas souvenir de vous avoir remis de cadeaux, et surtout pas un mirliton rouge. Vous êtes ridicule. Trouvez une autre fadaise pour vous occuper, mon ami. Je lis. » Et je me retirai, comprenant que le flutio n'avait pas été fabriqué pour moi, mais comme présent destiné à Lourdes, de la part de quelqu'un qui savait parfaitement ce qu'on ressent quand on est l'objet du dédain ou de la moquerie générale. Je n'avais absolument rien à voir dans l'affaire. À cette idée, mon cœur s'alourdit un peu plus. Le pire était que je ne pouvais confier ma détresse à personne, sauf si je tenais à exposer à Imbre toute l'étendue de ma stupidité. Je la supportais donc en silence, en m'efforçant de la cacher à tous. Le jour où le fou me donna le flutio, je me jugeais prêt à rassembler mes élèves épars. Les marchands de Terrylville étaient partis, et celle d'Anvestrit avec eux. Il était temps de tenir ma promesse à la reine. Je me rendis d'abord à la tour d'Imbre, puis montai au sommet de la tour d'Art. Constatant que, comme d'habitude, Devoir ne me rejoignait pas, j'ouvris en grand les volets sur le froid et l'obscurité de la fin de nuit d'hiver, puis je pris place dans le fauteuil de vérité, contemplant les ténèbres sans les voir. Mon vieux mentor avait demandé à Devoir de suivre mon enseignement, et même arrangé son emploi du temps afin qu'il pût passer plus de temps en ma compagnie, mais en vain. Depuis qu'il avait découvert et rompu l'ordre d'art que je lui avais imposé, le jeune garçon ne s'était pas présenté à une seule leçon. Je l'avais laissé à son insoumission beaucoup plus longtemps que vérité ne l'aurait toléré de ma part. Le prince ne reviendrait pas me voir de son propre chef. J'écartais les doutes que j'entretenais sur la sagesse de mon intervention, respirais lentement et à plusieurs reprises l'air froid du large, puis fermais les yeux. Je réduisis mon art à un point minuscule, mais investis de toute mon autorité. Devoir, venez me rejoindre. Je ne perçus aucune réaction. Ou bien il ne m'avait pas répondu, ou bien il refusait de m'écouter. Je renforçai la conscience que j'avais de lui, mais il continua de me glisser entre les doigts. J'en conclus qu'il me faisait délibérément obstacle, qu'il avait dressé ses murailles d'art contre moi. Je les palpai, et j'acquis alors la quasi-certitude qu'il dormait. J'éprouvai la solidité de ses barrières. Je n'aurais aucun mal à les enfoncer. Je pris une grande inspiration et rassemblai mes forces, mais changeai brusquement de tactique. Au lieu de porter un coup violent aux murailles de Devoir, je me mis à exercer sur elle une pression insidieuse. Très loin, je sentis un mince sourire étirer mes lèvres. J'employai la technique d'Ortie. Je m'infiltrai dans ses remparts, les franchis, et m'introduisis discrètement dans son esprit endormi. S'il rêvait, je n'en percevais rien. Je sentais seulement l'immobilité de sa conscience en veilleuse qui m'entourait, lisse comme un lac. Je m'y laissais tomber comme une pierre. Devoir. Il s'éveilla, repéra ma présence et réagit aussitôt par l'indignation. « Sortez de ma tête !» Il voulut me refouler, mais j'avais déjà franchi ses défenses. Je ne lui opposais qu'une résistance passive, sans agressivité. Je refusais simplement de me laisser expulser. Comme la première fois où nous avions lutté ensemble, il se jeta sur moi avec une fureur dépourvue de toute stratégie. Je soutins l'assaut, supportant ses coups mentaux, en attendant qu'il s'épuise. Quand la fatigue l'eut réduit quasiment à l'hébétude, je m'adressai à lui. « Devoir, rejoignez-moi à la tour, je vous prie. »«
Vous m'avez menti, vous me dégoûtez. » »«
Je ne vous ai pas menti. Je vous ai fait du tort sans le vouloir. J'ai tenté de le réparer, j'ai cru y être parvenu, et puis, au pire moment possible, je me suis aperçu que je m'étais trompé. »
Vous m'avez ligoté, vous m'avez obligé à me plier à votre volonté depuis le premier jour. Vous m'avez sans doute forcé à éprouver de l'affection pour vous.
Cherchez dans vos souvenirs, Devoir. Vous constaterez que c'est faux. Mais je ne débattrai pas davantage cette question de cette manière. Venez à la tour d'art, je vous prie.
Non!
Je vous attends. Et je me retirai de son esprit. Je restai un moment sans bouger. Le temps de récupérer mes forces et de réorganiser mes pensées. Une migraine cognait avec insistance à l'huis de mon crâne. Je la repoussai, respirai profondément et tendis à nouveau ma conscience. Je n'eus aucun mal à trouver Lourdes. Il irradiait de la musique, une musique semblable à aucune autre, car dépourvue de son. Je la laissai entrer sans entrave dans mon esprit, et elle devint encore plus étrange. Les notes qui la composaient ne provenaient pas d'instruments de musique. Je m'y immergeais un moment. À un niveau, les notes de la mélodie étaient tirées des bruits ordinaires de la vie de tous les jours. Claquement de sabots, choc sourd d'une assiette sur une table, sifflement du vent dans une cheminée, tintement d'une pièce qui tombe sur le pavé. Je m'enfonçais davantage et découvris, non plus de la musique, mais un motif mélodique. Les sons étaient séparés les uns des autres selon leur ton, et leur répétition elle-même suivait aussi une trame. J'avais l'impression de m'approcher d'une tapisserie. On voit d'abord le dessin dans son ensemble, puis un examen plus poussé révèle les divers types de matériaux employés pour créer le tableau, et une étude plus approfondie encore permet de distinguer chaque point, la couleur et la texture de chaque fil. Non sans mal, je me dépêtrais de la chanson de Lour, et je me demandais comment un esprit aussi simple pouvait concevoir une musique aussi complexe et subtile, et une intuition m'illumina soudain. Cette broderie musicale constituait le cadre de ses pensées et de son univers. C'était à ces détails qu'il prêtait attention afin de trouver la place de chaque bruit dans son vaste canevas sonore. Pas étonnant dans ces conditions qu'il lui resta bien peu de capacité de réflexion ou de concentration pour s'intéresser aux petits soucis du monde tels qu'Imbre et moi le percevions. Quelle attention prêtais-je au bruit d'un filet d'eau ou au chuintement d'une lame sur une pierre à aiguiser? Je revins à moi dans le fauteuil de vérité. J'avais l'impression que mon cerveau était une éponge qu'on avait plongée dans un bassin rempli de musique. Je dus laisser la chanson de Lour s'évacuer de mon esprit avant de retrouver mes propres pensées et mes objectifs personnels. Au bout d'un moment, je respirais à nouveau profondément, apprêtais mon art et projetais ma conscience hors de moi. Cette fois, je veillais à m'arrêter à la frange de sa musique. Là, j'hésitais. Comment l'avertir de ma présence sans l'effrayer? Avec une délicatesse infinie, je tentais un contact. Lour. L'impact de sa peur et de sa colère me fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Comme un chat réveillé brutalement, il s'enfuit, mais non sans m'avoir griffé au préalable. Choqué, j'ouvris les yeux et vis la mer moutonnante par la fenêtre de la tour. J'éprouvais pourtant du mal à réintégrer mon corps et à me persuader d'y rester, tant la nausée me submergeait. Encourageant comme première tentative, me dis-je avec ironie, et je demeurai quelques instants accablé. Devoir ne se présentait toujours pas, et Lour n'accepterait jamais aucune forme d'enseignement de ma part. Pour compléter cette liste d'échecs, je songeais que je n'avais plus aucune nouvelle de Heure depuis que je lui avais ordonné de faire la paix avec son maître, et je m'étonnais de mon talent évident pour susciter la déception et le mécontentement des êtres auxquels je tenais le plus. Enfin, je rassemblais à nouveau mes forces. Un dernier essai, et puis je retournerai dans ma chambre lugubre pour annoncer à Sire Doré que son humble serviteur prenait sa journée. Je descendrai à Bourg de Castelserre et j'essaierai de voir Heure. Tel était mon état d'esprit quand je repris place dans le fauteuil. Je sortis le flûtio rouge de sa bourse et l'examinai. Le fou s'était surpassé. Je n'avais jamais vu un flageolet aussi ouvragé que celui-là. Il était orné d'oiseaux minuscules. Je le portais à mes lèvres et tentais d'en tirer quelques notes. Pendant mon adolescence, Patience s'était efforcée de m'apprendre à jouer de plusieurs instruments, sans grand succès. Je parvins néanmoins à retrouver la mélodie simple d'une chanson enfantine, et je la répétais à plusieurs reprises dans l'espoir futile d'en atténuer les à-coups. Je m'adossais ensuite dans mon fauteuil, le flûtio toujours à la bouche, et sans cesser de jouer, je tendis mon esprit vers Lour en tâchant de lui transmettre seulement les notes aiguës du mirliton et en occultant mes pensées et toute autre trace de ma présence. Ma mélodie heurta sa musique et, pendant un moment, leurs discordances s'entrechoquèrent, puis sa chanson mourut et il porta son attention sur le son du flûtio.
« Qu'est-ce que c'est ?»
La pensée n'était pas dirigée vers moi. Il tendait simplement sa conscience pour découvrir la source des notes. Je m'efforçais de rendre la réponse que je lui renvoyais aussi délicate que possible, tout en continuant à jouer. « C'est un flûtio rouge, avec une ficelle verte. Tu peux le prendre? Il te suffit de venir le chercher. Il est à toi. » Un long moment de méfiance et puis il demanda
« Où ?»
Je me tus un instant pour réfléchir. Un soldat montait la garde au pied de l'escalier de la tour. Je ne pouvais pas dire à Lourdes d'emprunter ce passage, car il se ferait refouler. Humbre lui avait dévoilé au moins une partie du labyrinthe secret du château, et je savais qu'il vaudrait mieux consulter mon vieux maître avant de lui en révéler davantage, mais l'occasion était trop belle. Je voulais voir si j'étais capable de guider Lourdes, par le biais de notre lien mental, dans les galeries dissimulées. Non seulement cela me permettrait de découvrir les limites de notre capacité à nous artiser mutuellement, mais cela me donnerait un aperçu de ses compétences intellectuelles. Je refusais de tergiverser plus longtemps. « Rejoins-moi par ce trajet. » Je lui transmis l'image de la salle d'Humbre, puis je lui montrai, pas à pas, le chemin à suivre pour parvenir à la tour d'art. Je procédais sans hâte, mais sans lenteur excessive non plus. Je terminais sur ces mots. « Si tu t'égares, appelle-moi, je t'aiderai. » Puis je rompis délicatement le lien entre nous, me laissai aller contre le dossier de mon fauteuil et contemplai la petite flûte que je tenais dans ma main. J'espérais qu'elle me suffirait pour l'appâter. Je la posai sur la table et plaçai à côté d'elle une statuette de femme. C'était celle que le prince avait trouvée sur la plage où les piliers d'art nous avaient conduits. Sans raison précise, je l'avais prise dans la tour d'Humbre afin de la rendre à devoir. Avec un serrement de cœur, je songeais soudain aux plumes que j'avais ramassées sur la même grève. Je n'avais jamais fait part de cette découverte au fou. L'occasion ne s'en était jamais présentée. Désormais, je me demandais si je lui en parlerais un jour. J'écartais cette pensée. Je devais me concentrer sur ma tâche présente. J'essuyai mon front couvert de transpiration, et en me levant, je m'aperçus que j'avais du mal à tenir sur mes jambes. J'avais plus artisé ce matin-là, que cela ne m'était arrivé depuis bien longtemps, et ma migraine avait cru en proportion, au point que mon crâne me semblait prêt à éclater. Si j'avais disposé d'une bouilloire, d'une tasse, d'eau et d'écorce elfique, j'aurais sans doute cédé à la tentation. Mais je me contentais de me servir une rasade d'eau-de-vie et de m'accouder un moment à la fenêtre. Quand j'entendis des pas dans l'escalier de la tour, je crus qu'il s'agissait du garde. Je pris la bouteille, mon verre, me retirai dans un angle obscur et ne bougeait plus. La clé tourna lentement dans la serrure. La porte s'ouvrit, et Devoir entra. Il referma soigneusement derrière lui, puis parcourut du regard la pièce apparemment inoccupée. Il était visiblement irrité. Il s'approcha de la table et jeta un nouveau coup d'œil autour de lui. Je pris alors conscience qu'il avait le vif, certes, mais que son talent était moindre que le mien. Dans la même pièce que moi, il ne percevait pas ma présence. Il s'agissait là d'une découverte pour moi. Comme l'art, le vif pouvait se rencontrer à des degrés de puissance différents selon les individus. Je mis cette idée de côté pour l'examiner plus tard. Ici. Il sursauta au son de ma voix, puis il me vit quand je sortis de l'ombre, bouteille et verre à la main. Il me suivit d'un regard assassin tandis que je me dirigeais vers la table pour m'y débarrasser. « Bonjour, mon prince. » Il répondit d'un ton sec et empreint de dédain. « Tom Blaireau, vous êtes renvoyé. Je ne veux plus de vous comme professeur. Je vais demander à ma mère de vous faire quitter Castelserre. » Je conservai mon calme. « Comme il vous plaira, mon prince. Ce serait sans nul doute la voie la plus facile pour moi aussi. » « Il ne s'agit pas de facilité. Je parle de traîtrise et de trahison. » Vous avez employé votre art contre moi, votre prince légitime. Je pourrais exiger votre bannissement, voire votre exécution.
En effet, mon prince. Mais vous pourriez aussi demander que je m'explique.
Aucune explication ne peut excuser votre geste.
Je n'ai pas dit que vous pourriez me demander de m'excuser, mais de m'expliquer. La conversation buta. Je refusais de baisser les yeux et soutins son regard sans ciller. J'étais résolu. Il n'entendrait plus un mot de ma part tant qu'il ne m'aurait pas prié courtoisement de m'expliquer. Il paraissait tout aussi décidé à me foudroyer de son œil princier jusqu'à ce que j'implore son pardon. Il lâcha prise le premier.
« Vos explications seraient bien tardives. »«
Peut-être, en effet, » répondis-je. Je me tus à nouveau.
« Expliquez-vous, Tom Blaireau !»
J'aurais apprécié qu'il ajoutât « S'il vous plaît,
mais je sentis qu'il ne pouvait ployer davantage. L'amour-propre d'un adolescent est chose fragile. Je me tournai vers la table et remplis mon verre. Je levai la bouteille en interrogeant le prince du regard, mais il secoua la tête, refusant sèchement de trinquer avec un individu de mon espèce. Je soupirai. Quel souvenir gardez-vous de la plage? Celle où nous a conduit notre fuite par la pierre dressée. Son expression se troubla, et il prit l'air méfiant. Il hésita, tout près de mentir, puis il se ravisa. J'en conserve quelques fragments. L'ensemble se dissipe peu à peu, comme un rêve, mais parfois des images me reviennent parfaitement nettes. Je sais que vous vous êtes servi de l'art pour nous transporter, et j'ignore pour quelle raison je me suis retrouvé sans vigueur et l'esprit confus. Je suppose que vous en avez profité alors pour me jeter votre sort. Je poussai un nouveau soupir. Apporter mes éclaircissements s'annonçait encore plus difficile que je ne le craignais. Vous rappelez-vous un épisode près d'un feu où vous m'avez attaqué, où vous vous êtes jeté sur moi dans l'intention de me tuer? Il détourna brièvement les yeux, puis hocha la tête, comme étonné que j'eusse gardé cet incident en mémoire. Mais je n'agissais pas complètement de ma propre volonté, vous le savez bien. Péladine tentait de s'emparer de mon corps, et puis je ne vous connaissais pas alors. Je vous prenais pour mon ennemi. Moi non plus, je ne vous connaissais pas. Du moins, pas comme aujourd'hui. Pourtant, un lien d'art nous unissait déjà, car une fois auparavant, j'avais dû voler au secours de votre âme pour la ramener dans votre enveloppe charnelle. J'hésitais, puis jugeais préférable de ne pas mentionner l'autre créature que j'avais rencontrée alors, la grande entité qui nous avait aidés à regagner notre monde. Même pour moi, son souvenir demeurait brumeux. Mieux valait ne pas soulever de questions dont j'ignorais les réponses. Je repris. Je savais que Péladine vous possédait et qu'elle ne reculerait devant rien pour me tuer, quitte à vous blesser au passage. C'était effrayant. Du coup, poussé par la colère et la peur de mourir, je vous ai donné cet ordre. Devoir, cesser de me combattre. C'était un ordre d'art qui s'est gravé dans votre esprit beaucoup plus profondément que je ne l'avais prévu. Jamais je n'avais voulu cela devoir. C'était un accident que j'ai regretté et que je me suis efforcé de réparer. J'ai cru que j'y étais parvenu. Je sentis un sourire involontaire tirer les coins de ma bouche. Je suis resté convaincu d'avoir effacé cette empreinte jusqu'au moment où j'ai tenté de vous détourner de la déclaration stupide que vous vous apprêtiez à faire dans la grande salle. Alors seulement, je me suis rendu compte qu'il demeurait l'ombre d'un lien, à l'instant où vous l'avez rompu. « Oui, je l'ai rompu !» répéta-t-il avec satisfaction. Puis, il me lança de nouveau un regard noir. Mais comment vous accorder ma confiance, sachant que cette emprise a existé, sachant que vous pouvez me l'imposer à nouveau? Je cherchais une réponse quand Lourd ouvrit le panneau latéral de la cheminée. Sa corpulence lui rendait le passage encore plus difficile qu'à moi, et il était couvert de poussière et festonné de toiles d'araignée. Il resta un moment à nous regarder, le prince surpris et moi-même, en clignant les paupières, l'air à demi endormi comme toujours. Il avança la mâchoire, pointant pensivement sa langue entre ses lèvres, puis il déclara
« Je viens chercher le flutio. »
« Et je vais te le donner, » répondis-je. Je pris le petit instrument posé sur la table et le lui tendis au bout de son fil vert. Avec douceur, j'ajoutai « Et tu as très bien artisé, Lourd. Tu as suivi mes instructions et tu es arrivé là où il fallait. » Il s'approcha de moi en traînant les pieds. L'air soupçonneux. Il ne reconnaissait sans doute pas le prince Devoir hors du contexte du trône et des atours du pouvoir. Il lui jeta un regard mauvais, puis me dit
« Vous m'avez fait beaucoup marcher !»
Et il s'empara du mérliton avant que j'eusse le temps de le lui remettre. Il le plaça tout près de ses petits yeux, puis il me fixa en fronçant les sourcils.
« Ce n'est pas mon flutio !»«
Maintenant si, » repartis-je, « c'en est un nouveau. Fabriqué exprès pour toi. Tu as vu les oiseaux ? » Il fit tourner l'objet entre ses doigts et reconnut à contre-cœur.
« J'aime bien les oiseaux. »
Puis il fit demi-tour pour sortir. l'instrument serré dans son poing contre sa poitrine. Le prince l'observait avec une expression d'effarement proche de la répulsion. Je savais le sort réservé aux enfants comme lourd au royaume des montagnes. Il aurait été abandonné à une mort rapide et peut-être miséricordieuse, tout comme Burik noyait les chiots mal formés. Mais la reine Kétrikène avait ordonné que je lui dispense mon enseignement. Le rejet typiquement montagnard des personnes comme lourd allait-il empêcher Devoir de l'accepter? Je m'efforçais de ne pas prêter attention à l'espoir qui était né en moi de voir le prince le refuser comme membre du clan. Il fallait que je retienne le simple d'esprit. Tu ne veux pas l'essayer, lourd?
Non.
Les semelles frottant sur le pavement, il se rapprochait de la porte. Tu ne veux pas jouer cet air que tu répètes toujours dans ta tête? Celui qui fait
« la ta ta ti ta ».
Comme je tentais de reproduire la mélodie que j'avais fini par connaître par cœur, lourd se retourna d'un bloc, ses petits yeux brillants d'indignation.
« C'est ma chanson »
hurla-t-il.
« ma chanson de ma maman !»
Et il se dirigea vers moi, le meurtre au fond du regard. Il brandit le flutio comme un poignard qu'il se fût apprêté à plonger dans ma poitrine. « Je m'excuse, lourd, j'ignorais que tu ne voulais pas la partager. » Mais je me rendis compte, soudain, que j'aurais dû le savoir. Je reculais devant lui. Il était petit et râblé, ses membres courts et malhabiles, et son ventre proéminent. Si nous en venions aux mains, je pourrais le maîtriser, mais il faudrait pour cela lui faire mal, seul moyen de le terrasser, et je ne le voulais pas. Je désirais qu'il coopère de son plein gré. D'un bond, je me plaçai derrière la table.
« C'est ma chanson !»
répéta-t-il.
« Seul voleur, pue le caca de chien !»
Le prince ne put retenir un gloussement de rire. Sans doute horrifié et fasciné à la fois par le spectacle de l'idiot qui m'agressait à cause d'une simple chanson. Tout à coup, un pli barra verticalement son front. Alors que je courais autour de la table en tâchant de la maintenir entre lourd et moi, tant que je n'aurais pas réussi à le calmer, le prince s'exclama.
« Mais je connais cet air !»
Il en fredonna quelques notes et la mine de lourd s'assombrit encore.
« Je l'entends toujours quand j'essaye d'artiser. Il vient de toi ?»
Il paraissait sidéré.
« C'est ma chanson !»
brailla lourd encore une fois.
« Ma chanson de ma maman, tu ne peux pas l'entendre, rien que moi !»
Il bifurqua et fonça brusquement vers le prince. Il saisit au passage la bouteille d'eau-de-vie et la brandit comme un gourdin sans se soucier de l'alcool qui dégoulinait le long de son bras. Devoir écarquilla les yeux, mais bêtement orgueilleux, il refusa de battre en retraite devant l'assaut. Sans reculer d'un pas, il se mit en position de combat, comme je le lui avais enseigné, tandis que sa main se portait vers son poignard. Lourd réagit en diffusant son nuage hébétant.
« Ne me vois pas, ne me vois pas, ne me vois pas !»
sans dévier de sa course. Je vis Devoir tenter de résister, et je sentis qu'il rassemblait ses forces pour briser l'écran d'art d'un coup violent.
« Non !»
criai-je épouvanté.
« Ne vous faites pas de mal !»
Et l'art sous-tendit ces mots. Le prince et le simple d'esprit tressaillirent, puis tous deux se tournèrent vers moi, les bras levés comme pour parer ma magie. J'eus presque l'impression de l'avoir ricoché sur eux, mais elle les étourdit un instant. Le choc en retour de l'art qu'il m'avait instinctivement renvoyé m'ébranla, moi aussi, mais je m'en remis plus vite qu'eux. Devoir recula d'un pas en titubant tandis que l'ours cachait les yeux derrière ses mains épaisses. J'étais épouvanté de ma réaction. Toutefois, comme les deux adversaires restaient immobiles et apparemment soumis, du moins pour un moment, je déclarai.
« Ça suffit. Je vous interdis de vous attaquer ainsi à nouveau, si vous devez travailler ensemble à maîtriser l'art. »
Je remarquai non sans fierté que ma voix ne tremblait pas. Le prince secoua la tête et fit d'un ton éberlué
« Vous avez recommencé. Vous avez osé employer l'art contre moi. »
« En effet, » répondis-je, et puis je demandai « Que vouliez-vous que je fasse ? Que je reste les bras croisés pendant que vous vous desserveliez mutuellement ? Avez-vous déjà vu votre cousin Auguste Devoir ? Ce vieillard branlant, toujours un filet de bave à la bouche. Lui a été victime d'un simple accident. » Mais on connaît des exemples d'artiseurs qui se sont infligés des mutilations irréversibles au cours de combats semblables à celui que vous vous apprêtiez à engager. Il y a eu des morts aussi. Des morts qui ont provoqué des dégâts presque aussi terribles chez ceux qui tuaient que chez ceux qui étaient tués. Devoir prit appui sur la table. Lourd baissa lentement les mains de son visage. Il s'était mordu la langue, et le sang en tombait goutte à goutte. Devoir dit en s'adressant à nous deux.
« Je suis votre prince. Vous m'avez juré fidélité. Comment avez-vous l'audace de m'attaquer ?»
Je m'armais de courage et, sans plaisir, endossais le rôle qu'Imbre m'avait imposé. « Pas ici, » fis-je d'un ton posé. « J'ai juré fidélité aux loin voyants, c'est exact. Je les sers du mieux que je le puis. Et pour les servir au mieux, dans le cas présent, je dois vous dire ceci, Devoir. Dans cette pièce, vous n'êtes pas mon prince, mais mon élève. Et tout comme votre maître d'armes vous porte des coups avec une épée d'exercice, je suis prêt à user de toute la force nécessaire. » Je me tournai vers Lourd qui nous observait avec une moue maussade. « Dans cette pièce, Lourd n'est pas serviteur. Ici, il est mon élève. » Puis je les regardais tous les deux et les sanglais ensemble dans le harnais qu'ils devaient partager. « Ici, vous êtes égaux, élèves tous les deux, mais attention, entre ces murs, pendant les heures de mon enseignement, mon autorité est absolue. » Mes yeux allèrent de l'un à l'autre. Est-ce bien clair ? Le prince avait une expression butée, lourde, soupçonneuse.
« Pas serviteur ? »
demanda-t-il lentement. « Non. Si tu décides de venir ici comme élève pour apprendre ce que j'ai à enseigner, et en fin de compte, être capable d'aider le prince. » Il fronça les sourcils, s'efforçant de débrouiller ma réponse.
« Aider le prince ? Travailler pour lui ? Serviteur ? Ça fera du travail en plus pour Lourd. »
Une lueur mauvaise s'était allumée dans ses petits yeux pendant qu'il exposait ce qu'il prenait pour mon intention cachée. Je secouai la tête. « Non, aider le prince comme membre de son clan, comme ami. »«
C'est grotesque !»
fit Devoir d'un ton dédaigneux.
« Pas serviteur !»
Manifestement, cette idée plaisait à Lourd, et cela me permit d'en apprendre un peu plus sur lui. Je ne l'aurais pas cru assez intelligent pour se préoccuper de sa position sociale. Pourtant, il aurait préféré ne pas être domestique, à l'évidence. « Oui, mais seulement si tu deviens mon élève. Si tu ne viens pas ici tous les jours pour essayer d'apprendre ce que j'enseigne, tu n'es pas un élève. Lourd redevient serviteur, il porte du bois et des brodeaux. » Il posa la bouteille vide sur la table et passa rapidement le fil de son mirliton par-dessus sa tête.
« Je garde le flutio !»
déclara-t-il avec emphase, comme s'il s'agissait d'un élément essentiel du marché. Serviteur ou élève, Lourd garde le flutio. Il est à lui. Cette réponse parut embrouiller sa perception de la situation. Il se mit à réfléchir furieusement, et sa langue pointa davantage entre ses lèvres.
« Vous plaisantez, j'espère ?»
me dit le prince à mi-voix.
« Cette créature doit faire partie de mon clan ?»
J'éprouvai à la fois un élan de compréhension et une violente irritation devant son mépris pour Lourd. Je déclarai d'un ton uni. « C'est le meilleur candidat qu'Imbre et moi ayons trouvé jusqu'ici. » À moins, bien sûr, que vous n'en ayez un autre à nous proposer qui manifeste les mêmes prédispositions que lui. » Il se tut, puis secoua la tête à contre-cœur. Une partie de moi-même s'amusait de le voir s'affliger davantage de la perspective de devoir partager son apprentissage avec Lourd que de mon intention de ne pas le traiter en prince pendant les leçons. Je décidai de profiter de cet instant de distraction. « Parfait. C'est donc entendu. Je pense que nous en avons tous appris suffisamment pour aujourd'hui. » Soyez ponctuels demain matin, tous les deux. Vous pouvez sortir. » Lourd ne se fit pas prier. Son flutio serré dans son poing, il se dirigea en trottinant vers le panneau de la cheminée. Comme il le refermait derrière lui, le prince s'enquit à voix basse.
« Pourquoi me faites-vous cela ?»«
Parce que j'ai juré fidélité aux loin voyants. Je me dois de les servir du mieux possible. Vous pouvez vous en aller, Devoir. » J'espérais qu'il obéirait, mais il ne bougea pas. On frappa brusquement à la porte et nous sursautâmes de concert. Je regardai le prince qui prononça d'une voix forte.
« Qu'y a-t-il ? »
La voix d'un jeune page nous parvint, étouffée par le bois épais du battant.
« Un message pour vous, monseigneur Devoir, du conseiller Imbre. Il m'a ordonné de vous demander pardon et de vous informer que vous deviez le lire sur le champ. »
« Un instant. » Je m'effaçai dans un angle obscur pendant que le prince s'approchait de la porte, la débâclait, l'entrebâillait et recevait un petit parchemin scellé. Comme je le regardais, je songeais avec amertume que, malgré tous ses défauts, le maître d'art Galen avait eu raison dans plusieurs domaines. Ses étudiants n'auraient jamais osé se défier, et encore moins mettre en cause son autorité. Dès l'abord, il les avait tous brutalement réduits à l'égalité, encore que j'eusse constitué une exception. Tous savaient qu'ils me considéraient comme encore inférieur à eux. Malgré que j'en eusse, je me voyais contraint d'imiter certains de ces procédés, même si je me refusais à user de la même violence. « Discipline n'est pas synonyme de châtiment », me dis-je, et je reconnus dans cet aphorisme l'écho de propos que Burick m'avait tenu autrefois. Le prince avait refermé la porte et fait sauter la cire du sceau. Il fronça les sourcils en déroulant le parchemin, car il contenait un second manuscrit, scellé lui aussi.
« Ce doit être pour vous, je pense »,
fit-il d'un air troublé. D'une main que je n'aurais jamais identifiée comme celle d'Ambre, le mot « professeur » avait été écrit sur le dos du document. À la vue de mon emblème, le cerf loin-voyant tête baissée imprimé dans la cire, je pris le rouleau des mains du prince. « C'est exact », dis-je laconiquement. Je tournai le dos à devoir, brisai le sceau et lus le texte. Il tenait en une seule phrase. Puis, sous le regard intrigué du prince, je fis brûler le manuscrit dans la cheminée.
« De quoi s'agissait-il ? »
demanda Devoir d'une voix tendue. « D'une convocation, » répondis-je sans m'étendre. « Je dois y aller, mais je vous attendrai demain matin, à l'heure dite, prêt à travailler. Bonne journée, mon prince. » Interdit, il garda le silence tandis que je me faufilais par le panneau de la cheminée, refermais et bâclais le bâton derrière moi. Une fois dans les trois passages, je me hâtais tant bien que mal en maudissant les plafonds bas, les tournants étranglés par lesquels je parvenais tout juste à me glisser, et les tours et détours labyrinthiques auxquels me forçaient les couloirs dissimulés que j'eusse voulu courir le plus vite possible en empruntant le plus court chemin. Quand je parvins au trou d'observation qui donnait sur la salle d'audience privée de la reine, j'avais la bouche sèche comme de l'amadou, et je haletais comme un chien de retour de chasse. Je respirai profondément à plusieurs reprises, puis attendis d'avoir retrouvé un souffle régulier et inaudible avant de me précipiter sur le petit tabouret et de coller mon œil à la fente minuscule. J'avais du retard. Ambre et Ketriken étaient déjà présents, la reine assise, tandis que le conseiller restait debout à ses côtés. Il me tournait le dos. Un jeune garçon d'une dizaine d'années, tout en bras et en jambes, se tenait devant eux. La transpiration aplatissait ses boucles noires sur son crâne, et de l'ourlet de son manteau tombaient des gouttes d'eau sale. Les chaussures basses qu'il portait n'étaient pas conçues pour servir en hiver. Une croûte de neige à demi fondue collait encore à ses jambières et à ses pieds. Il avait dû marcher toute la nuit. Ses yeux noirs étaient immenses, mais il ne les détournait pas sous le regard de la reine.
« Je comprends, » dit-elle à mi-voix.
À cette réponse, le garçon parut s'enhardir, et je regrettais de n'avoir pas entendu le début de la conversation.
« Oui, madame, »
fit-il.
« En apprenant que vous étiez contre ce que subissent les vifiés, j'ai décidé d'aller vous voir. Peut-être qu'ici, à Castelserre, je pourrais être ce que je suis sans risquer de me faire rosser. Je vous promets de ne jamais l'utiliser pour faire le mal. Je jurerai fidélité aux loin-voyants, et je vous servirai comme vous me le demanderez. »
Il leva les yeux et fixa sur la souveraine un regard non pas effronté, mais franc et direct, le regard d'un garçon certain d'avoir choisi la bonne voie. Je dévisageais le fils de Burick, reconnaissant Molly dans ses pommettes et ses cils.
« Et ton père approuve ta décision ?»
demanda Imbre, austère mais bienveillant. Le garçon détourna le visage et répondit avec moins d'ardeur.
« Mon père n'en sait rien encore, messire. Je n'en pouvais plus, alors je suis parti. Mais je ne lui manquerai pas. Vous avez vu notre maison, il a d'autres fils, de bons fils qui n'ont pas le vif. »«
Ce n'est pas pour autant que tu ne lui manqueras pas, Agile. »
Une expression agacée apparut sur les traits de l'enfant.
« Je ne suis pas Agile. Agile n'a pas le vif. Moi, je suis Leste, l'autre jumeau. Raison de plus pour que je ne manque pas à mon père. Il a déjà une version de moi qui est parfaite. »
Un silence choqué s'ensuivit, dont la signification échappa sans doute à l'enfant. Ketriken prit la parole et s'efforça d'en atténuer l'effet.
J'ai connu Burick il y a bien des années. Il a certainement changé, mais je reste persuadé que, doué du vif ou non, vous lui manquerez.
Imbre enchaîna.
Quand je lui ai parlé, il m'a paru très attaché à tous ses enfants et fier d'eux.
Je crus un instant que le garçon allait éclater en sanglots. Mais il reprit son souffle et répondit d'un ton prosaïque.
« Vous avez raison, mais c'était avant. »
Imbre dut lui adresser un regard perplexe, car il expliqua laborieusement.
« Avant que la souillure ne se déclare chez moi, avant qu'il ne sache que j'avais le vif. »
Je vis la reine et Imbre se tourner l'un vers l'autre et conférer à voix basse. Au bout d'un moment, Catriquaine dit avec douceur. « Dans ce cas, Lest, fils de Burick, voici ce que je déclare. Je suis prête à vous prendre à mon service, mais je pense préférable d'avoir d'abord le consentement de votre père. Il doit savoir où vous vous trouvez. Il n'est pas juste de laisser vos parents dans la crainte qu'il ne vous soit arrivé malheur. »
Pendant ce discours, des éclats de voix s'étaient fait entendre dans le couloir. Des coups légers furent frappés à la porte, suivis d'autres, plus rapides et plus forts, avant que quiconque eût le temps de réagir.
De la tête, Catriquaine fit signe à un petit page à ses côtés d'aller répondre. La porte s'écarta sur un garde qui s'apprêtait visiblement à transmettre un message. Derrière lui se tenait Burick, massif et sombre, l'air mauvais, et malgré les années écoulées, je tremblais devant son regard. L'œil noir et étincelant de colère, il scruta la salle d'audience par-dessus l'épaule de l'homme. Considérant à l'évidence la sentinelle comme quantité négligeable, il dit avant que le garde n'eût le temps d'ouvrir la bouche.
« Imbre, je voudrais vous parler, s'il vous plaît. »
Ce fut la reine Catriquaine qui répondit.
« Burick, entrez, je vous prie. Page, je n'ai plus besoin de vous. Fermez la porte en sortant. Non, Senna, tout va bien, je vous l'assure. Nous n'avons pas besoin de protection. Fermez la porte derrière vous. »
Burick avait pénétré d'un air furieux dans la salle, mais la courtoisie tranquille de Catriquaine et son accueil serein le prirent au dépourvu. Sa démarche chaloupée dénotait la raideur d'une de ses jambes. Il mit un genou en terre devant la souveraine, alors même qu'elle s'exclamait
« Oh, Burick, ce n'est pas nécessaire, relevez-vous, s'il vous plaît. »
Il obéit à contre-cœur. Un détail me fendit l'âme quand son regard croisa celui de Catriquaine. Une cataracte à peine visible, un début infinitésimal de brume commençait à voiler ses yeux noirs.
« Ma reine, sire Imbre, »
fit-il d'un ton formaliste. Puis, comme s'il n'avait plus rien à leur dire, il se tourna vers l'est.
« Rentre tout de suite à la maison. »
L'enfant eut l'audace de jeter un coup d'œil à la reine pour confirmation, et Burick gronda.
« Rentre à la maison, j'ai dit !» « Oublies-tu qui est ton père ?»«
Non, papa, non. Mais comment ? Comment m'as-tu retrouvé ?»
Lest avait un ton accablé. Burick eut un grognement dédaigneux.
« Sans difficulté, tu t'es enquis auprès du forgeron de Trura, de la route de Castelserre. À présent, je viens de faire un long trajet dans le froid, et tu as suffisamment dérangé ces gens. Je te ramène à la maison. »
J'éprouvai alors un élan d'admiration pour l'Est qui tint bon devant la colère croissante de son père.
« J'ai demandé asile à la reine. Si elle me l'accorde, j'ai l'intention de rester. »«
Tu dis des bêtises. Tu n'as pas besoin de protection. Ta mère est folle d'inquiétude et ta sœur ne cesse de pleurer depuis 2 jours. Tu vas rentrer à la maison, reprendre ta place et faire ton travail, et sans te plaindre. »«
Oui, papa. »
répondit l'Est. Il n'acquiesçait pas, il déclarait simplement avoir entendu son père. En silence, il leva ses yeux noirs vers la reine. Ensemble, Burick et l'enfant composaient un curieux tableau, l'aîné grisonnant à côté de son fils qui partageait le regard buté de son père.
« Si je puis me permettre une suggestion, »
fit Imbre. Catriquaine l'interrompit.
« Lest, vous avez accompli un long voyage sans vous ménager. Je suis sûr que vos habits sont mouillés, que vous avez froid et que vous êtes fatigué. Dites à la sentinelle dans le couloir de vous conduire aux cuisines, de vous donner à manger, puis de vous installer près de la cheminée pour vous sécher et vous réchauffer. Je souhaite m'entretenir avec votre père. »
L'enfant hésita, et Burick fronça encore davantage les sourcils.
« Obéis, mon garçon, »
dit-il d'un ton autoritaire.
« C'est ta reine qui te parle. » Si tu n'as pas la piété filiale d'écouter ton père, montre au moins que tu as assez d'éducation pour suivre les ordres de ta souveraine légitime. Incline-toi devant elle et va là où elle t'a dit d'aller. »
Je vis l'espoir s'éteindre dans les yeux de l'Est.
Son salut fut raide, mais impeccable, et il sortit, non pas d'un pas furtif, mais avec dignité, comme s'il se rendait à sa propre exécution. Lorsque la porte se referma derrière lui, Burick reporta son regard sur Ketriken.
« J'implore le pardon de ma reine pour le dérangement qu'a occasionné mon fils. C'est un bon petit d'ordinaire, mais il est à un âge difficile. »
« Il ne nous a nullement dérangés. À dire le vrai, j'aimerais qu'on me dérange ainsi plus souvent, si cela nous vaut votre visite. Asseyez-vous, voulez-vous, Burick ?» Elle indiqua un fauteuil vide dans une rangée devant elle. Burick resta debout, l'air guindé.
« Je vous remercie, madame, mais je n'ai pas le temps de m'attarder. J'ai promis à mon épouse de retourner auprès d'elle, avec notre fils aussi vite que possible, et... »«
Dois-je vous l'ordonner, mon vieil ami à la tête dure ? Votre bonne épouse vous pardonnera d'avoir pris un moment de repos, j'en suis sûr. » Il se tut, puis comme un chien qui a reçu l'ordre de s'asseoir et de ne plus bouger, il s'approcha d'un siège et s'y installa. Il garda le silence. Ketriken attendit un instant, puis elle fit une nouvelle tentative. Au bout de tant d'années, il est malheureux que nous nous trouvions enfin réunis pour une situation aussi embarrassante. Toutefois, si gênante qu'elle soit, je me réjouis de vous revoir, et aussi de constater que vous avez un fils qui a hérité du caractère indomptable de son père. Tout autre que Burick se fût senti flatté de ce compliment, mais il baissa seulement le regard et rétorqua.
« Je crains qu'il n'ait hérité aussi de nombre de ses défauts, votre majesté. »
Ketriken ne se perdit pas en vains détours. « Comme le vif. » Burick tressaillit, comme si elle venait de lui lancer une malédiction. « L'Est nous a parlé de lui, mon vieil ami, et je ne considère pas cette magie comme une tare honteuse. Il m'a dit s'être présenté à moi parce que j'ai interdit la persécution des vifiés, et il a demandé à entrer à mon service. De fait, je serais heureuse d'avoir un page au cœur aussi vaillant, mais je lui ai répondu qu'il me fallait le consentement de son père. » Il secoua la tête.
« Je ne vous le donne pas, madame. L'Est est beaucoup trop jeune pour vivre au milieu d'étrangers. S'élever si haut et si vite au-dessus de sa condition naturelle risquerait de le gâter. Il a besoin de rester auprès de moi quelques années encore, le temps qu'il apprenne à maîtriser les élans de sa jeunesse.
« Le temps que vous éradiquiez le vif de lui, »
fit Imbre. Burick réfléchit un moment, puis fronça les sourcils.
« Je ne crois pas cela possible. Je m'efforce depuis de longues années de l'extirper de moi-même, mais il demeure toujours. Cependant, si on ne peut pas s'en débarrasser, on peut apprendre à le refuser, tout comme on doit apprendre à refuser d'autres vices. »
« Et vous êtes convaincu qu'il s'agit d'un vice, d'une tare méprisable ?» Ketriken s'exprimait avec douceur. « Pourtant, si vous n'aviez pas eu le vif, Royal m'aurait tué autrefois. Si vous n'aviez pas eu le vif, Fitz se serait mort dans les cachots de Royal. » Burick prit une courte inspiration. Elle parut se bloquer dans sa gorge, et il inspira de nouveau comme un homme qui s'efforce de contenir ses émotions. Il leva les yeux en battant des paupières, et j'eus le cœur déchiré, en voyant ses cils brillants de larmes.
« Vous prononcez son nom, » dit-il d'une voix rauque. « Mais ne comprenez-vous pas que c'est à cause de lui que j'adopte cette attitude ? Ma reine, sans le vif, Fitz aurait appris l'art convenablement. Sans le vif, on ne l'aurait peut-être pas jeté dans les cachots de Royal. Sans le vif, qui sait s'il ne serait pas encore vivant aujourd'hui ?
Le vif l'a condamné à mourir, et même pas comme un homme, comme un animal. » Sa respiration était hachée, sa voix gutturale, mais il demeurait droit et se dominait.
« Chaque jour de ma vie, je me reproche mon échec. Mon prince, le seigneur Chevalerie, m'avait confié son seul et unique enfant, avec pour toute instruction celle de bien l'élever. J'ai manqué à mon engagement envers mon prince. J'ai failli à Fitz et à moi-même, à cause de ma faiblesse. Parce que... je n'ai pas eu le courage de faire preuve de sévérité avec le petit quand il le fallait. Du coup, il s'est laissé aller à cette ignoble magie. Il l'a pratiquée et il a scellé son sort. Il a payé le prix de mon indulgence coupable. Il est mort de façon horrible, seul, avec l'esprit d'une bête. Madame, J'ai aimé Fitz, d'abord, comme le fils d'un ami, puis comme un ami lui-même. Je l'ai aimé comme j'aime aujourd'hui, mon propre fils. Je refuse que cette vile magie me prenne un autre petit. Je ne le permettrai pas. »
Ce fut seulement sur ces derniers mots que sa voix se mit à trembler. Ses mains qui se crispaient se serrèrent en poings fermés, et il embrassa l'homme et la femme devant lui d'un regard embué.
« Ulrich, mon vieil ami !»
Imbre parlait d'une voix étranglée.
« Il y a longtemps, vous m'avez annoncé la mort de Fitz. J'en ai douté alors, et j'en doute encore aujourd'hui. Quelle certitude avez-vous qu'il a péri? Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit à tous les deux. Il avait l'intention de voyager vers le sud, en Calcède et au-delà. Peut-être a-t-il tenu parole et... Non !»
Ulrich porta lentement les mains à son col. Il l'ouvrit et tira du revers un petit objet brillant. Mon cœur s'affola dans ma poitrine et des larmes brouillèrent ma vue. Il présenta l'objet scintillant au creux de sa paume calleuse.
« Ne le reconnaissez-vous pas ? C'est l'épingle que le roi subtil lui avait donnée quand il s'est assuré son allégeance. »
Il renifla bruyamment, puis s'éclaircit la gorge.
« Quand j'ai découvert son corps, Fitz était mort depuis longtemps, sa chair rongée par de nombreux animaux. Mais... ce bijou se trouvait toujours piqué dans la chemise qu'il portait lors de son décès. Il a succombé comme une bête, sous l'assaut de créatures presque semblables à lui. C'était le fils d'un prince, le fils du meilleur homme que j'ai jamais connu, et il est mort comme un chien. »
Il referma brusquement la main sur l'épingle et sans un mot l'inséra de nouveau dans son col. Assis dans l'obscurité, derrière le mur, je me bâillonnais de la main pour étouffer mes sanglots. Je devais garder mon secret, je devais rester mort à ses yeux. Jamais je n'avais songé à ce que ma disparition pouvait représenter pour lui, ni à la douleur et au remords qu'il devait éprouver en imaginant la façon dont j'avais péri. Ulrich demeurait convaincu que j'avais succombé au vif, que j'avais régressé jusqu'à l'animalité, homme bête qui avait survécu dans les bois jusqu'au jour où des forgisés l'avaient attaqué et tué. Il n'était pas loin de la vérité. Pendant quelque temps, j'étais devenu un loup dans le corps d'un homme, mais à force de volonté, j'avais fini par m'extraire de ce refuge et retrouver mon esprit humain. Quand les forgisés avaient attaqué ma maison, je m'étais enfui, et plusieurs jours s'étaient écoulés avant que je m'en rendisse compte que j'avais oublié ma précieuse épingle. Entre-temps, Ulrich avait trouvé le cadavre d'un forgisé que j'avais tué. L'homme portait la chemise où était piquée l'épingle, et l'ancien maître des écuries de Castelserre en avait déduit que ce corps était le mien. Depuis, j'avais jugé préférable de le laisser dans l'ignorance de mon véritable sort. Cela me paraissait la solution la plus charitable pour tous. Molly et lui s'étaient découverts amoureux l'un de l'autre et avaient bâti une existence commune. La révélation de ma survie ne pourrait que détruire le lien qui les unissait. Non, rien ne devait changer. Rien. Pétrifié, plongé dans une sorte d'hébétude, je regardais l'homme qui se jugeait responsable de ma mort. Il devait continuer à porter ce fardeau. Je ne pouvais l'alléger en rien.
« Ulrich, je ne crois pas que vous ayez manqué à vos engagements envers quiconque, »
fit Ketriken d'une voix douce.
« Et je ne considère pas le vif de votre fils comme une tare. Laissez-le moi, je vous en prie. »
Il secoua la tête lentement. Pesamment.
Vous n'en diriez pas autant s'il s'agissait de votre fils, s'il courait chaque jour le risque qu'on découvre ce qu'il est.
Je vis les épaules de Ketriken se soulever. Elle prenait son inspiration pour révéler à Ulrich que son propre fils avait le vif, j'en étais sûr. Imbre perçut lui aussi le danger, car il intervint avec diplomatie.
Je comprends vos raisons, Ulrich. Je n'y acquiesce pas, mais... « Je les comprends. »
Il se tut, puis demanda.
« Qu'allez-vous faire du petit ?»
Ulrich le dévisagea, interloqué, puis il éclata d'un rire bref et sec.
« Quoi ? Vous redoutez que je ne l'écorche vif ? Non, je vais le ramener chez lui, le maintenir à l'écart des animaux, et lui donner tant de travail dans la journée qu'il s'endormira avant même de se glisser dans son lit la nuit venue. Rien de pire. Les reproches de sa mère le meurtriront bien plus efficacement que tous les coups de canne du monde, et sa sœur ne lui pardonnera pas facilement le mauvais sang qu'elle s'est fait pour lui. Tout à coup, il fronça les sourcils, l'air encore plus menaçant qu'à son entrée. « Vous a-t-il raconté que je menaçais sa vie ou sa santé ?»« Si oui, c'est un mensonge, il le sait, et il risque une bonne claque. »«
Il n'a rien dit de tel, » répondit calmement Ketriken. « Il a simplement déclaré ne plus pouvoir supporter de vivre chez lui sans avoir le droit de pratiquer le vif. »
Burik eut un grognement méprisant. « On ne meurt pas de ne pas avoir le droit de pratiquer le vif. Y renoncer entraîne un sentiment de solitude. » Je suis bien placé pour le savoir, mais refuser le vif n'a jamais tué personne. C'est l'accepter qui tue.
Il quitta brusquement son fauteuil. J'entendis son mauvais genou craquer, et il fit une grimace de douleur.
Votre Majesté, pardonnez-moi, mais si je reste assis trop longtemps, mes articulations vont se nouer, et le trajet jusque chez moi me sera d'autant plus dur.
Dans ce cas, demeurez une journée parmi nous, Burik. Rendez-vous aux étuves, et laissez se détendre cette jambe de foie blessée au service et à la protection d'un loin voyant. Resterez-vous, dormez dans un lit moelleux. Il sera bien assez tôt demain pour rentrer chez vous.
C'est impossible, madame.
Mais non. Dois-je également vous ordonner de profiter de quelques heures d'agrément ? Ketriken s'exprimait d'un ton empreint d'affection. Burik la regarda dans les yeux.
Ma reine, « seriez-vous prête à m'obliger à rompre ma promesse à ma propre dame ?»
Ketriken inclina gravement la tête. « Fidèle ami, la rigueur de votre honneur n'a d'égal que votre entêtement. »« Non, Burik, jamais je ne vous demanderai d'enfreindre votre parole. Trop souvent, ma vie n'a tenu qu'à elle. Je vous laisse donc partir comme vous le souhaitez, mais vous attendrez toutefois que je prépare quelques cadeaux que j'aimerais remettre aux vôtres par votre entremise. Et, entre-temps, autant que vous preniez un repas chaud et chassiez le froid de votre voyage auprès d'un âtre. » Burik se tut un moment, puis répondit.
« Comme il vous plaira, madame. »
Encore une fois, lourdement, avec peine, il mit un genou en terre. Il se releva et attendit la permission de se retirer. Ketriken soupira. « Vous pouvez aller, mon ami. » Quand la porte se fut refermée derrière lui, la reine et Imbre restèrent un moment sans parler. Il n'y avait plus qu'eux dans la salle. Finalement, Imbre se retourna, porta son regard vers mon trou d'observation et déclara doucement. « Tu disposes d'un peu de temps pendant qu'il mange. Réfléchis bien. Veux-tu que je le rappelle ici ? Tu pourrais t'entretenir seul à seul avec lui. Tu pourrais apaiser sa conscience. » Il s'interrompit. « La décision t'appartient, mon garçon. » « Ni Ketriken ni moi ne la prendrons à ta place, mais... » Il laissa la phrase inachevée. Peut-être savait-il que je n'avais nulle envie d'entendre ses conseils sur le sujet. À mi-voix, il reprit. « Si tu souhaites que je lui demande de revenir ici, dis à Sire Doré de me faire parvenir un message. Sinon, eh bien ne fais rien. » La reine se leva, et accompagnée d'Imbre, elle quitta la salle d'audience. Avant de sortir, elle lança par-dessus son épaule un regard implorant vers le mur qui me dissimulait. J'ignore combien de temps je demeurais sans bouger sur mon tabouret, dans la poussière et la pénombre. Quand la mèche de ma bougie commença de se noyer, je repris le chemin de ma petite chambre. Les couloirs me parurent longs et lugubres. Je marchais, invisible, dans le salpêtre, les toiles d'araignée et les crottes de souris, comme un fantôme. Me dis-je avec un sourire contraint, comme je traversais ma vie. Revenu chez moi, je décrochai mon manteau. Tendis l'oreille un moment à la porte, puis pénétrai dans la pièce principale des appartements de Sire Doré. Il était assis à la table, seul. Il avait poussé de côté le plateau de son petit déjeuner et paraissait oisif. Il ne me salua pas, et je pris la parole sans préambule. Burik est ici. Il a suivi son fils Lest, le jumeau d'Agile. Lest a le vif et il est venu chercher asile auprès de la reine et lui demandait de le prendre à son service.
Burik refuse de laisser le petit à Ketriken. Il compte le ramener chez lui et lui apprendre à ne pas se servir du vif, qu'il considère toujours comme une magie mauvaise et qu'il rend responsable de ma mort. Il s'en rend responsable, lui aussi, faute d'avoir réussi à me faire passer le goût du vif. Au bout d'un moment, Sire Doré se tourna vers moi, d'un air indolent.
« Intéressant potin. Ce Burik n'était-il pas maître des écuries à une époque? Je ne crois pas l'avoir rencontré. »
Je restai un instant à le dévisager. Il me rendit mon regard sans la moindre trace d'intérêt. Je descends à Bourg de Castelserre pour la journée, annonçai-je sans embâge. Il reprit sa contemplation du plateau de la table.
Comme vous voulez, Tom Blaireau, je n'ai pas besoin de vos services aujourd'hui. Mais tenez-vous prêt à m'accompagner demain à midi. Dame Armery et sa nièce m'ont invité à une partie de chasse aux faucons. Je préfère me passer d'oiseau personnel, vous le savez. Ces bêtes abîment les manches de mes manteaux avec leurs serres, mais je pourrais peut-être ajouter quelques plumes à ma collection.
J'avais soulevé le loquet de sa porte avant qu'il terminât sa comédie haïssable. Je fermai le bâton derrière moi et m'engageai d'un pas exaspéré dans l'escalier. Je savais que je tentais le sort, et moi-même. Si je croisais Burik dans le couloir, il me reconnaîtrait. Odieux de décider s'il devait poursuivre sa vie dans l'ignorance et les remords, ou dans la vérité et les déchirements du cœur. Mais je ne le rencontrai pas dans les salles de Castelserre, et je ne l'aperçus même pas en passant devant la cantine des gardes. Puis j'eus un grognement de dérision. À quoi pensais-je donc? Assurément, on avait conduit l'hôte de la reine à la grande salle où on l'avait traité copieusement, de même que son fils indocile. Sans prendre le temps d'imaginer d'autres tentations, je sortis dans la cour et descendis bientôt à grands pas sur la route de Bourg de Castelserre. Le temps était beau, clair et froid. L'air glacé me cuisait les pommettes et la pointe des oreilles, mais la marche m'empêchait de me refroidir par ailleurs. Dans ma tête, je me jouais une dizaine de scènes décrivant la tournure possible d'une rencontre avec Burik. Il me serrait dans ses bras, il me frappait et me maudissait, il ne me reconnaissait pas, il s'évanouissait sous le choc. Dans certaines, il accueillait ma résurrection avec des larmes de bonheur, tandis que, dans d'autres, il me vouait à la damnation à cause des années de remords que je l'avais obligé à vivre. Mais dans aucune, je ne parvenais à m'imaginer comment nous pourrions parler de Molly et d'Ortie, ni ce qui se passerait ensuite. S'il découvrait que j'étais vivant, pourrait-il le cacher à Molly? Le voudrait-il? Parfois, il poussait le sens de l'honneur si loin que l'inconcevable d'un autre devenait la seule solution pour lui. J'émergeais de mes réflexions au milieu de Bourg de Castelserre. Les passants s'écartaient de moi et je me rendis compte que je fronçais les sourcils de manière inquiétante, sans compter que je marmonnais sans doute dans ma barbe. Je voulus arborer une expression plus amène, mais ne parvins pas à convaincre mes traits de se détendre. J'étais incapable aussi de décider où me rendre. Je me dirigeais finalement vers la boutique de menuiserie où Heur accomplissait son apprentissage et restais à faire les 100 pas devant la vitrine jusqu'à ce que je l'aperçusse à l'intérieur. Il tenait des outils. Lui avait-on confié de nouvelles responsabilités ou bien les apportait-il seulement à quelqu'un d'autre? Enfin, au moins, il se trouvait là où je l'espérais. Je résolus de ne pas le déranger ce jour-là. Je gagnai ensuite d'un pas flânant l'échoppe de Gina, mais elle était fermée. Un coup d'œil dans la pantie me permit de constater que la ponette et la carriole manquaient. Son travail avait dû l'appeler ailleurs. J'ignorais si j'en éprouvais du soulagement ou de la déception. Combler ma solitude en sa compagnie n'aurait probablement pas apaisé ma souffrance, mais si je l'avais trouvée chez elle, j'aurais vraisemblablement cédé à la tentation. À défaut de cette solution qui n'en était pas une, je pris une décision presque aussi stupide, celle d'aller au port coincé. Une taverne à vifier pour le bâtard au vif. Quoi de plus approprié? Je poussai la porte et, comme je me tenais dans l'encadrement, le clair soleil d'hiver entrant à flot derrière moi, je constatai que c'était le genre d'établissement qui gagnait à n'être vu qu'à la lueur des lampes. La lumière du jour révélait non seulement la fatigue des tables à côté au mur et la paille humide qui se confondait en excuses sur le sol, mais aussi l'expression lugubre des clients qui passaient un bel après-midi d'hiver dans un pareil taudis. « Des clients comme moi », me dis-je amèrement. Un vieux et un manchot avec une jambe tordue étaient attablés près de l'âtre et jouaient au domino. Plus loin,
Un homme au visage couvert de bleu impressionnant serrait un pot à bière entre ses deux mains en parlant tout seul. Une femme leva les yeux à mon entrée. Elle haussa les sourcils d'un air interrogateur et je fis non de la tête. Sur un dernier regard maussade, elle reprit sa contemplation du feu dans la cheminée. Un garçon muni d'un seau et d'un chiffon nettoyait tables et bancs. Quand je m'assis, il s'essuya les mains sur son pantalon et s'approcha de moi. « Une chope de bière, » dis-je. Non parce que j'en avais envie, mais parce que je devais commander quelque chose. Il acquiesça, prit ma pièce, alla me chercher ma boisson et se remit à sa tâche. Je bus une gorgée, puis m'efforçai de me rappeler pourquoi j'étais descendu à Bourg-de-Castelserre. Je finis par conclure que j'avais simplement eu besoin de me dégourdir les jambes. Et je me retrouvai installé à une table. Crétin. Je n'avais pas bougé de ma place quand le père de Svania entra. Je pense qu'il ne me vit pas tout d'abord, passant de la rue inondée de soleil à la pénombre de la taverne. Pour ma part, je baissai le nez en le reconnaissant, comme si, en évitant de le regarder, je pouvais me rendre invisible. Mon stratagème n'eut pas le succès escompté. J'entendis le bruit de ses lourdes bottes sur la paille détrempée, puis il tira une chaise et s'assit en face de moi. Je le saluai de la tête avec circonspection, et il posa sur moi un regard vague. Il avait les yeux rougis, mais il m'était impossible de déterminer s'il avait pleuré, manquait de sommeil, ou abusait de la boisson. Ses cheveux noirs étaient bien coiffés, mais il avait omis de se raser ce matin-là. Pourquoi n'était-il pas à son travail? Le garçon lui apporta une chope, accepta le paiement et reprit son nettoyage. Cordaguet avala une lampée de bière, gratta sa barbe naissante et dit « Eh bien voilà !» « Oui, voilà, » répondis-je d'un ton posé avant de boire à mon tour. Je souhaitais avec tant de ferveur me trouver ailleurs qu'il me paraissait incompréhensible que mon corps demeurât où il était.
« Votre fils !»
Cordaguet se déplaça nerveusement sur son siège.
« Est-ce qu'il a l'intention d'épouser ma fille ou bien seulement de ruiner sa vie ?»
Il s'exprimait avec calme, mais je percevais la colère et la douleur qui montaient en lui comme les miasmes du fond d'une eau croupie. Je compris alors, je crois, que nous en viendrions aux mains. Ce fut pour moi comme une révélation. Il était prêt à tout pour regagner sa propre estime, et je représentais simplement l'occasion d'y parvenir. Le vieux et le manchot se désintéressèrent de leur partie pour nous observer. Ils savaient comme moi ce qui se préparait. Ils seraient les témoins de Cordaguet. Il n'existait pas de possibilité d'échapper au dénouement de notre face-à-face. Pourtant, je tentais d'en trouver une. D'un ton grave, sérieux et mesuré, je m'efforçais de lui parler de pair à pair. Heur dit qu'il aime Svania. Il n'a donc pas l'intention de ruiner sa vie ni de s'amuser avec elle, puis de la rejeter. Ils sont très jeunes tous les deux. Mais en effet, il y a danger, pour mon fils comme pour votre fille. Je commis alors l'erreur de m'interrompre. Si j'avais poursuivi mon discours, peut-être serait-il resté à sa place et aurait-il prêté attention à mes paroles. Je voulais lui demander son avis sur la façon dont nous, parents, pouvions nous y prendre pour réfréner nos enfants, en attendant que leur passion trouve une sorte d'assise dans un projet d'avenir. Peut-être, si je n'avais pas réfléchi aussi furieusement à ce que je devais lui dire et aux moyens dont nous disposions, aurais-je remarqué que pour sa part, il réfléchissait furieusement à la meilleure méthode pour me casser la figure. Il se dressa brusquement, s'achoppa la main, la fureur d'un homme aux abois brillants dans ses yeux.
« Votre fils baise ma fille, ma petite fille, ma Svania, et vous croyez qu'il ne fout pas sa vie en l'air ?»
J'étais en train de me lever à mon tour quand la lourde chope me heurta en plein visage. Une partie de moi-même observa que j'avais mal calculé son coup. J'avais cru qu'il l'utiliserait pour tenter de m'assommer, et j'avais prévu de m'écarter vers l'arrière. Mais quand il l'avait abattu vers moi, je n'avais pas disposé d'un recul suffisant. Elle frappa ma pommette gauche avec un craquement sonore et des filaments blancs de douleur irradièrent du point d'impact. Sous le coup d'une souffrance aiguë, certains battent en retraite et d'autres restent paralysés. Les tortures que m'avait infligées Royal avaient gravé en moi une réaction différente, celle de contre-attaquer sur le champ avant que la situation n'empire, sans laisser le temps à l'agresseur de prendre le dessus, au risque qu'il n'eût le loisir ensuite de me tourmenter à son gré. Je m'étais jeté sur Cordaguet par-dessus la table avant même que la chope n'ait touché le sol. Ma douleur au visage atteignit son paroxysme à peu près à l'instant où mon poing percuta sa bouche. Ses dents m'entaillèrent les phalanges, et ma main gauche le frappa au plexus, plus haut que prévu. Gina ne s'était pas trompée en me mettant en garde contre lui.
Il conserva son équilibre et poussa un rugissement de rage. Je me tenais sur la table en équilibre sur un genou. Je ramenais l'autre sous moi et me projetais en avant, les mains tendues vers la gorge de mon adversaire. Sous mon poids, il s'écroula en arrière, gêné par le banc derrière lui sur lequel je m'éraflais douloureusement les tibias. Il était plus vigoureux qu'il ne le paraissait, et il se battait sans retenir ses coups, sans se soucier de se protéger, uniquement préoccupé de me toucher. Il ne prêtait aucune attention à sa propre personne, et comme nous boulions à terre agrippés l'un à l'autre, j'entendis ses doigts craquer chaque fois que son poing me frappa à la tête. Je n'avais pas une bonne prise sur sa gorge, et les bancs et les tables qui encombraient la taverne entravaient nos mouvements. À un moment, il se retrouva au-dessus de moi, mais nous avions glissé sous une table. Je réussis à me soulever violemment, et il donna brutalement du crâne contre le lourd plateau du bois. Il resta sonné un instant, et j'en profitai pour échapper à son étreinte en roulant sur le sol. Je sortis de sous la table et me redressai. Il m'adressa un rictus haineux. Manifestement, sa colère ne se calmait pas. Dans une rixe, il peut se produire des événements simultanés. À l'instant où je m'apprêtais à lui décocher un coup de pied, alors qu'il allait se relever, le tavernier beugla.
« J'ai appelé la garde! Allez vous battre dehors !»
Tandis que le vieux s'écriait d'une voix cassée.
« Fais gaffe, Rory! Il va te flanquer sa botte dans le nez, fais gaffe !»
Mais le cri qui rompit ma concentration fut celui dehors.
« Tom, ne fais pas de mal au père de Svania !»
Rory Cordaguet, lui, ne paraissait pas nourrir de scrupules à l'idée de faire du mal au père dehors. Il me donna dans la cheville un puissant coup de pied qui me déséquilibra alors qu'il sortait en roulant de sous la table. Je tombai, mais sur lui. Je saisis sa gorge à pleine main, mais il releva le menton dans l'espoir de contrarier mes efforts de strangulation, tout en martelant mes côtes de ses poings.
« Garde municipale !»
lança une voix de basse sur un ton d'avertissement, et deux hommes d'armes nous soulevèrent d'un bloc du plancher. Sans perdre leur temps à essayer de nous séparer, ils nous traînèrent sans ménagement jusqu'à la porte et nous jetèrent dans la neige de la rue. Au milieu d'un cercle de badauds, je persistais à vouloir étrangler Rory. Il me saisit par les cheveux et me repoussa tout en me griffant les yeux.
« Décrochez-les l'un de l'autre !»
brailla un sergent, et ma détermination me parut soudain vaine. Je lâchai prise et me débarrassai de celle de mon adversaire d'une torsion de la tête. J'y laissai une poignée de cheveux. Quelqu'un agrippa mes bras et me contraignit à me lever. Puis, il prit mes poignets et les ramena d'un geste expert dans mon dos. Je serrai les dents et me concentrai pour ne pas résister. Comme je restais sans bouger, le souffle court mais docile, je sentis la poigne sur mes avant-bras se détendre légèrement. Rory Cordaguet ne jouissait pas d'une telle clarté d'esprit. Il se débattit alors qu'un garde l'obligeait à se redresser, et il dut lui asséner plusieurs solides coups de matraque. Quand il se calma enfin, il était à genoux, et du sang coulait de sa bouche sur son menton et égoutté dans la neige. Il continuait de me regarder d'un œil noir.
« Rixe dans une taverne, c'est 6 pièces d'argent d'amende. Payez tout de suite et rentrez chez vous tranquillement. Ou bien allez au trou et payez 2 fois plus pour en sortir. Et dégagez-vous, tavernier ?»
Je n'entendis pas la réponse de l'intéressé, car Heure me souffla d'un ton furieux à l'oreille.
« Tom, mais qu'est-ce qui t'a pris ?»
Je me tournai vers mon garçon, et il eut un mouvement de recul en découvrant mon visage. Je n'en fus pas étonné. Malgré le froid, ma pommette me cuisait et je la sentais enflée.
C'est lui qui a commencé.
Mon explication sonnait plutôt comme l'excuse d'un gamin boudeur. Le garde qui me tenait me secoua.
Hey, toi, écoute un peu ce qu'on te dit. Le capitaine te demande si tu as les 6 pièces d'argent, alors?
Je les ai. Lâchez-moi une main que j'attrape ma bourse. Je notai que le tavernier ne nous avait imputé aucun dégât. Peut-être était-ce le bénéfice de ma qualité de client régulier. Le garde me libéra avec cet avertissement.
« Pas de bêtises, hein ?»«
J'ai commis mon lot de bêtises pour la journée, » marmonnai-je, ce qui me valut un petit rire involontaire de l'homme. Mes mains commençaient à enfler, et il me fut pénible de défaire les cordons de ma bourse et de sortir le nombre de pièces nécessaires. Bel emploi de la générosité de ma reine. Mon garde prit mon argent et alla le remettre au sergent, qui le recompta et le fourra dans un sac officiel pendu à sa ceinture. Rory Cordaguet, toujours fermement tenu par 2 hommes d'armes, secoua la tête d'un air maussade.
« Je n'ai pas la somme, »
dit-il avec une élocution chuintante. Un de ses gardiens eut un grognement de mépris.
« Vu ce que vous avez dépensé à boire ces derniers jours, c'est à se demander où vous avez trouvé de quoi vous payer de la bière aujourd'hui. »«
Bon, au trou, »
déclara le sergent d'un ton glacial.
« Je l'ai, »
dit Heure tout à coup. J'avais presque oublié sa présence. Il tirait à présent sur la manche de l'officier.
« Tu as quoi ?»
questionna l'homme interloqué.
« Le montant de son amende. Je la paierai, mais ne le mettez pas en prison, par pitié. »«
Je ne veux pas de son argent, je veux rien lui devoir !»
Rory Cordaguet commençait à s'effondrer entre les gardes qui le tenaient. Sa colère envolée, il s'abandonnait à sa douleur. Et soudain, il éclata en larmes. C'était affreux à voir.
« Il fiche en l'air la vie de ma fille. Il détruit notre famille. Prenez pas son sale fric !»
Heure blêmit. Le sergent le toisa d'un air froid. L'adolescent dit d'une voix qui se cassait.
« Je vous en prie, ne le jetez pas en prison. Il y a déjà bien assez de mal de fait, non ?»
La bourse qu'il ouvrit portait bien visible la marque de maître Guindast. Heure en sortit les 6 pièces demandées et les tendit à l'officier.
« Je vous en prie, »
répéta-t-il. Le sergent se détourna brusquement de lui.
« Ramenez Cordaguet chez lui. Je sursois son amende. »
Et il présenta son dos à Heure qui vacilla comme sous l'effet d'un coup de poing, les joues brûlantes d'humiliation. Les 2 gardes qui flanquaient Cordaguet emmenèrent leur prisonnier. Mais il était évident qu'il l'aidait à marcher plutôt qu'il n'entravait ses mouvements. Les autres membres de la patrouille s'éloignèrent pour reprendre leur ronde, et nous nous retrouvâmes tout à coup seuls au milieu de la rue glacée, Heure et moi. Je clignai les paupières, et mes plaies et bosses commencèrent à se signaler à mon attention. La meurtrissure la plus grave était celle de ma pommette, là où la chope m'avait touché. Je voyais flou de ce côté-là. Et j'éprouvais un instant un soulagement égoïste, à savoir Heure à portée de main, prêt à m'aider. Mais quand il se tourna vers moi, j'eus l'impression d'être invisible.
« Tout est perdu, »
dit-il d'un ton désespéré.
« Jamais je ne pourrai réparer pareil désastre. Jamais !»
Il regarda Cordaguet qui s'éloignait, puis il reporta les yeux sur moi.
« Pourquoi, Tom ?»
demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion.
« Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Je suis allé habiter chez Guindast comme tu le voulais. Tout commençait à s'arranger et tu as tout anéanti.
Il observa les hommes qui s'en allaient.
Plus jamais je ne pourrai faire la paix avec les parents de Svania.
C'est Cordaguet qui a déclenché la bagarre, fis-je bêtement. Puis, je me mordis la langue de présenter une excuse aussi lamentable.
Ne pouvais-tu refuser le combat ?
Demanda-t-il d'un air vertueux.
Tu m'as toujours répété que la meilleure solution était de l'éviter si possible.
Il ne m'en a pas laissé la possibilité.
Ma colère commençait à enfler davantage encore que mon visage. Je m'approchai d'une façade et levai la main pour prendre une poignée de neige à peu près propre sur une avancée de toit. Je l'appliquai sur ma joue.
Je ne vois pas comment tu peux me reprocher ce qui s'est passé,
repris-je d'un ton maussade.
C'est toi qui as tout provoqué, avec ton empressement à flanquer cette fille dans ton lit.
L'espace d'un instant, on eût cru, à son expression, que je l'avais frappé. Mais avant même que j'eusse le temps de regretter mes paroles, la fureur l'envahit.
« À t'entendre, on dirait que j'avais le choix !»
fit-il d'une voix glacée.
« Mais ça n'a rien d'étonnant, je suppose, de la part d'un homme qui n'a jamais connu le véritable amour. Tu t'imagines que toutes les femmes sont comme Astérie, mais c'est faux. Svania est celle que j'aime pour toujours, et on ne fait pas attendre l'amour. Ses parents et toi nous auriez empêchés de parachever notre passion, comme s'il était certain que demain viendrait, mais nous avons refusé. L'amour exige qu'on le cueille tout entier, aujourd'hui même !»
Ce discours attisa ma colère. J'étais sûr qu'il n'était pas de lui, qu'il l'avait appris auprès de quelques ménestrels de Gargote.
« Si tu crois que je n'ai jamais connu l'amour, c'est que tu ne sais rien de moi !»
répliquai-je.
« En ce qui te concerne, Svania est la première fille avec laquelle tu as dépassé le stade du bonjour. Tu la culbutes dans ton lit et tu appelles ça l'amour ? Ce n'est pas une simple affaire de coucherie, mon garçon. Si l'amour n'est pas présent avant et ne survit pas après, s'il n'est pas capable de patience ni de courage face à la déception et la séparation, ce n'est pas l'amour. Il n'a pas besoin de relations physiques pour exister. Il ne nécessite même pas de contact quotidien. Je le sais parce que j'ai connu l'amour, sous de nombreuses formes, dont ce que j'éprouve pour toi.
« Tom !» s'écria-t-il d'un ton de reproche. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à un couple qui passait.
« Tu crains qu'il se méprenne sur le sens de mes paroles ?» fis-je avec une ironie mauvaise.
Au ton de ma voix, l'homme saisit le bras de sa compagne et la fit accélérer. Je devais avoir l'air d'un démon, mais c'était le cadet de mes soucis.
« Moi,
je crains que tu ne te sois toujours mépris sur mes conseils. Dès que tu as mis le pied à bord de Castelcerf, tu as totalement oublié ce que j'avais tenté de t'apprendre. Je ne sais même plus comment m'adresser à toi. »
J'allais chercher une nouvelle poignée de neige sur l'avancée du toit. Je tournais la tête vers Heur, mais son regard était glacé, perdu au loin. À cet instant, je renonçais à lui. Il m'avait quitté pour suivre sa propre voie, et je n'y pouvais rien. Discuter avec lui n'aurait pas plus d'effet que toutes les mises en garde dont Burick et Patience m'avaient abreuvé autrefois. Il irait le chemin qu'il avait choisi, commettrait ses erreurs personnelles, et peut-être, quand il atteindrait mon âge, il en tirerait ses propres leçons. N'avais-je pas agi de même ? « Je finirai de payer ton apprentissage, » dis-je à mi-voix. Je m'adressais autant à moi qu'à lui. Notre trajet commun s'achevait. Il était déjà achevé, à vrai dire, hormis ce marché que je persistais à honorer pour moi-même. Je me détournais et entamais la longue montée jusqu'à Castelcerf. Chaque fois que je respirais, mes côtes meurtries me faisaient mal, mais je ne pouvais que serrer les dents. Mes mains continuaient à enfler, et je reconnaissais avec dégoût cette sensation familière. Morose, je me demandais quand je serais assez vieux et parvenu à une sagesse suffisante pour cesser de me bagarrer. De même, je m'interrogeais sur la curieuse impression de vide que je ressentais dans ma poitrine, la béance que Heur comblait encore dans ma vie quelques instants plus tôt. On eût dit une blessure mortelle. Quand j'entendis courir derrière moi, je me retournai d'un bloc, redoutant une nouvelle attaque d'épis. Heur s'arrêta en dérapant devant mon rictus agressif. Un instant d'éternité, le temps se figea, et nous restâmes à nous regarder. Puis Heur tendit la main et agrippa ma manche en disant
« Tom, je ne supporte pas cette situation. Je fais des efforts mais je me prends sans cesse les pieds dans le tapis. Les parents de Svania sont en colère contre elle. Elle s'en est plainte à moi et, quand je lui ai proposé d'aller les voir pour leur promettre de ne me rien précipiter avec elle, c'est elle qui s'est mise en colère contre moi. Elle m'accable aussi de reproches parce que j'habite chez Guindast et que je ne peux pratiquement plus sortir le soir. Mais c'est moi tout seul qui ai décidé de rencontrer Guindast pour lui demander de m'héberger. J'ai dû avaler des couleuvres, mais j'ai tenu bon et maintenant ça y est, je lui obéis au doigt et à l'œil comme tu me l'as conseillé. J'ai horreur de me lever aux aurores, de rationner les bougies que je brûle le soir, de ne pas pouvoir sortir toutes les nuits, mais je m'y plie. Et aujourd'hui, pour la première fois, il m'a envoyé faire une course, prendre des garnitures en cuivre chez le forgeron. Maintenant, je serai en retard, et je devrais supporter ses réprimandes sans répondre, en courbant la tête. Mais je ne peux pas te laisser partir convaincu que j'ai oublié tout ce que tu m'as appris, parce que c'est faux. Je dois seulement trouver l'existence que je veux mener ici. Et parfois, ce que tu m'as enseigné ne cadre pas avec la façon de penser des gens qui m'entourent. Parfois, ce que tu m'as enseigné ne s'applique pas ici. Mais je fais des efforts, Tom. Je fais des efforts. »
Les mots avaient jailli de lui comme un torrent en crue. Quand ils se furent taris et que le silence menaça de retomber entre nous, je passai mon bras sur ses épaules et le serrai contre moi, malgré les protestations de mes côtes. « Va vite terminer ta course, » lui dis-je à l'oreille. J'aurais voulu ajouter un mot, mais rien ne me vint. Je ne pouvais pas lui affirmer que tout se terminerait bien, car je n'en savais rien. Je ne pouvais pas lui assurer que je me fiais à son discernement, car c'était faux. Ce fut Heur qui trouva les mots.
« Je t'aime, Tom. Je continuerai de faire des efforts. »
Je poussai un soupir de soulagement. « Moi aussi, je t'aime, et je continuerai à faire des efforts. Et maintenant, dépêche-toi. Tu as de longues jambes et tu es rapide à la course. Tu ne seras peut-être pas en retard si tu cours vite. » Il me lança un sourire à la volée, se détourna et s'en alla au galop en direction de la rue du Forgeron. J'enviais la fluidité de ses mouvements. Je repris le chemin du château de Castelcerf. À mi-pente, je croisai Burick qui descendait à cheval, leste en croupe, les bras autour de la taille de son père. La jambe blessée de Burick s'écartait bizarrement de la selle, et il avait modifié son étrier pour ménager son genou. L'espace d'un instant, je le regardais fixement. L'Est me dévisagea bouche bée, sans doute à cause de ma figure tuméfiée. Je réduisis mon vif à une braise mourante, baissai la tête et poursuivis mon chemin dans la neige, sans un autre coup d'œil. Mon cœur me poussa à me retourner sur eux une fois qu'ils furent passés. Mais je réprimais cette envie. J'éprouvais une peur trop terrible que Burick ne me rendît mon regard. Je parcourus le reste du chemin jusqu'à Castelserre transi de froid et l'humeur morose. Je me rendis au bain. Les gardes qui allaient et venaient ne m'adressèrent pas la parole. J'espérais que l'air humide et chaud calmerait certaines de mes douleurs, mais je me trompais. Je souffris pendant la longue montée jusqu'à ma chambre, et sachant que je ne gagnerais que des courbatures à rester immobile, je n'aspirais néanmoins qu'à retrouver mon lit. J'avais lamentablement perdu ma journée. Je doutais même que mes efforts avec devoir et lourd portassent leurs fruits. Comme j'arrivais aux appartements de Cire Dorée, la porte s'ouvrit et Garetha, la jardinière, sortit, un panier de fleurs séchées au bras. Alors que je m'arrêtais pour la regarder, surpris, elle leva les yeux et croisa les miens. Elle rougit si violemment que ses taches de rousseur disparurent presque, puis elle se détourna et s'enfuit dans le couloir, non sans que j'eusse eu le temps, cependant, d'apercevoir le pendentif qu'elle portait, une amulette au bout d'une lanière en cuir. La petite rose sculptée avait été peinte en blanc et sa tige noircie à l'encre. Je reconnus l'œuvre du fou. Avait-il décidé de suivre le conseil mal avisé que je lui avais donné? Sans que je comprisse pourquoi, j'en fus accablé. Je toquai avec circonspection et m'annonçai avant d'entrer. Comme je refermais la porte derrière moi en parcourant la pièce du regard, je découvris un Cire Dorée dans une pose parfaitement étudiée, enfoncé dans le fauteuil devant la cheminée. Un instant, il écarquilla les yeux en découvrant mon visage meurtri, mais il reprit aussitôt son masque impassible.
« Je vous croyais parti pour la journée,
Tom Blaireau, » fit-il avec entrain. « C'était mon intention, » répondis-je, sans chercher à m'étendre. Toutefois, je me sentis comme cloué sur place, à le regarder tandis qu'il m'observait, avec une maîtrise absolue de lui-même. J'ai parlé avec eux. Je lui ai dit qu'il y avait une différence entre aimer quelqu'un et coucher avec cette personne. Cire Dorée battit lentement des paupières, puis demanda
« Et vous a-t-il cru ?»
J'hésitais un instant. Je ne pense pas qu'il ait tout à fait compris, mais j'espère que cela viendra avec le temps.
« Il faut du temps pour beaucoup de choses, »
dit-il. Il plongea de nouveau son regard dans les flammes, et mes espoirs qui avaient bondi une seconde se tempérèrent. J'acquiesçai de la tête et me rendis dans ma chambre. Je me déshabillai, m'étendis sur le lit étroit, et fermai les yeux. Je m'étais plus dépensé que je ne m'en étais rendu compte, car je dormis non seulement tout l'après-midi, mais aussi fort avant dans la nuit. Mon repos fut profond et sans rêve, jusqu'au moment où, alors que l'obscurité était tombée depuis longtemps, je me sentis arraché à ce bienheureux néant pour me retrouver dans cet état d'équilibre fragile qui sépare le sommeil de l'éveil. Qu'est-ce qui m'avait dérangé? À peine me posais-je la question que je connus la réponse. Devant mes murailles d'art, Horty pleurait. Elle ne lançait plus d'assaut, elle n'exigeait plus avec colère que je la laisse entrer. Elle se trouvait simplement devant mes remparts, accablée d'une tristesse infinie. Je couvris mes yeux de mes mains comme si j'espérais ainsi la tenir à distance. Puis, je rassemblai mon courage et rompis mes murailles. Mon esprit franchit l'infime distance qui me séparait d'elle et je l'enveloppai d'un sentiment de réconfort en lui disant « Ne t'inquiète pas, ma petite. Ton père et ton frère sont en route pour revenir chez toi. Ils vont bien. Cesse de te ronger les sangs et repose-toi. »
« Mais comment peux-tu le savoir ?»«
Je le sais. » Je lui transmis ma certitude absolue accompagnée de ma brève vision de Burick et de l'Est sur le même cheval. L'espace d'un instant, elle perdit toute forme, envahie par un immense soulagement. Je commençais à me retirer, mais elle s'agrippa soudain à moi.
C'est devenu invivable ici. D'abord, l'Est a disparu, et nous avons craint qu'il ne lui soit arrivé malheur. Ensuite, le forgeron de la ville a dit à papa qu'il lui avait demandé la route du château de Castelserre. Alors papa s'est mis dans une rage noire, il a pris le cheval, et il est parti en trombe, et depuis maman passe son temps à pleurer ou à tempêter. Elle dit qu'il n'y a pas plus dangereux pour l'Est que d'aller à Castelserre, mais elle refuse d'expliquer pourquoi. Ça me fait peur de la voir ainsi. Parfois,
Elle me regarde sans même remarquer ma présence et tout à coup elle me crie de me rendre utile, ou alors elle éclate en sanglots et elle ne peut plus s'arrêter. Je n'y comprends rien. Mes frères et moi essayons de nous faire plus petits que des souris, et Agile a l'impression d'avoir perdu la moitié de lui-même et il s'imagine que c'est sa faute sans savoir pourquoi.
J'interrompis le flot de ses pensées. « Écoute-moi, tout va s'arranger. »
« Je te crois, mais comment l'annoncer à ma mère et à mes frères ?»
Je réfléchis. Déclarer à Molly qu'elle l'avait vu en rêve ? Non. « Tu ne peux pas. Ils doivent continuer à supporter leur angoisse, malheureusement. Il faut donc que tu sois forte, à leur place, puisque tu sais que tout va bien. Aide ta mère. Occupe-toi de tes petits frères et prends patience. Si je connais un peu ton père, il arrivera aussi vite que son cheval le lui permettra.
Tu connais mon père ?
Quelle question. Oui, très bien. Je compris aussitôt que j'avais franchi la limite, que je venais de prononcer des mots dangereux pour nous deux. Avec plus de légèreté encore qu'une feuille de saule flottant au vent, j'employais donc mon art pour l'inciter à s'endormir vraiment, et à s'éveiller revigoré au matin. Je la sentis se décrocher de moi, et je me retirai en douceur derrière mes murailles. J'ouvris les yeux dans les ténèbres de ma chambre. Je repris mon souffle, roulai sur le côté, et me renfonçai dans mes couvertures. J'avais faim, mais l'heure du petit déjeuner arriverait bien assez tôt. Une pensée maladroite s'introduisit dans ma tête, portée sur des notes de musique. Le contact était hésitant, à cause non d'un manque de talent chez l'artiseur, mais du dégoût qu'il éprouvait à toucher mon esprit avec le sien.
« Tu as réussi à la faire cesser de pleurer. Maintenant, l'ours peut dormir, lui aussi. »
Il s'éclipsa aussitôt, et je restais les yeux grands ouverts, les idées pêle-mêle. Comme je me ressaisissais et tentais de me convaincre que le contact de l'ours était un pas positif et non une intrusion, un autre esprit effleura le mien. C'était un esprit immense, lointain et infiniment étranger à tout ce que je connaissais et que je percevais pourtant féminin. Je ne sentis rien d'humain dans ces pensées, tandis que l'entité déclarait, avec un amusement mitigé,
« À présent, tu vas peut-être apprendre à rêver moins fort. Ton semblable n'est pas le seul que cela dérange. Il n'est pas non plus le seul à qui tu te révèles. » Qu'es-tu ? Quelle importance as-tu pour moi ?
Et elle m'abandonna comme une vague abandonne un noyé sur une grève. Je me penchai sur le flanc de mon lit, pris de vomissements secs, plus mis à mal par ce contact prodigieux que par tous les coups de Rory Cordaguet. La nature incompréhensible de l'être qui avait touché mon esprit me laissait détruit et suffoquer mes pensées, comme si j'avais tenté de respirer de l'huile ou de boire du feu. Haletant dans le noir, je sentis la sueur ruisseler sur mon front et dans mon dos, et je me demandais ce que mon art vagabond avait éveillé.